Alors, Casino, Loto-Québec et crime organisé. Lise.
Eh oui, c'est une autre surprise qui nous tombe dessus et qui, en fait, n'en est pas vraiment. Moi, je donne mon âge, mais j'ai assisté à la conférence de presse que à l'époque, le ministre du Tourisme du Québec s'appelait André Valran. Pardon, c'était un type assez flamboyant. Et j'étais à la conférence de presse où il annonçait bon qu'il y aurait un casino à Montréal. Puis évidemment, les questions qui ont fusé immédiatement, ça a été des questions sur la mafia, sur le crime organisé. D'ailleurs, Frank Cotroni aurait dit, c'est ça, c'est comme les citations de Churchill, là, aurait dit « Les seuls en ville qui savent opérer un casino, c'est nous autres. » Même ce petit côté ironique, hein? Mais la réalité, c'est que on a dit non, nous, il n'y aura pas de problème parce qu'on donne la gestion des casinos à l'État et l'État, on le sait, est incorruptible. Hein? C'est clair, tout le monde sait ça. C'est pas nouveau ce qui vient de sortir, là. Il y en a eu des trucs avant. Moi, je ne crois pas que Casino au Québec soit gangrené profondément jusqu'à la moelle, mais comme on dit, où il y a de l'argent, il y a de l'argenterie. Et là, il y en a qui ont décidé de servir. On a appris cette semaine que le gouvernement fédéral avait imposé une amende en 2012 au casino de Montréal, une amende de 150 000 $, c'est pas rien, pour finalement à pas avoir été aussi rigoureux que nécessaire et avoir fait des transactions. C'est pas clair quel genre, mais on peut penser peut-être blanchiment d'argent, mais bon, ça, l'histoire ne le dit pas. Et qu'ils ont dû payer. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ça en 2012? En tout cas, moi, j'ai aucun souvenir. Et voici ce qui m'intéresse là-dedans. La présidente de Loto-Québec, Mme Lynn Reuter, et travaille pour le casino depuis 1985. Autrement dit, depuis les débuts, c'est une avocate de formation. Et en 2012, cette dame occupait le poste de secrétaire et vice-présidente aux affaires juridiques pour le casino. Donc, en 2012, ce qui s'est passé avec le gouvernement fédéral et avec on ne sait pas qui, elle le savait. Elle devait être au cœur de ça en tant que vice-présidente responsable du juridique. Est-ce qu'elle nous en a parlé? Non, absolument pas. Et je l'écoutais l'autre fois en entrevue avec toi, Paul. Bon, on se rappelle, elle avait comme un peu, elle était un peu fuyante, hein, quand même.
Un peu, ouais.
Et je dois dire que j'étais quand même un peu surprise de voir qu'une entreprise québécoise, nationale, en fait, étatique, d'une telle envergure, avec un tel potentiel aussi pour certains problèmes, ait une présidente, comment dirais-je, d'abord une fonctionnaire de carrière. C'est pas mal là, d'être fonctionnaire de carrière, mais c'est un drôle d'endroit de se retrouver dans un casino quand on est fonctionnaire de carrière. Et qu'est-ce que ça laisse présager? Je le sais pas, mais j'aime pas ça.
Luc, ben moi je suis d'accord avec toi. J'ai été flabbergasté. Au début, avant de me renseigner, là, j'ai acheté la version publique là, que tout le monde a eue. C'est un lieu public, on contrôle pas qui joue, on ne savait pas vraiment, on fiche pas les individus. Puis même si on les fichait, ben qu'est-ce que tu veux que ça donne? À partir du moment où la personne a purgé sa peine ou elle n'a pas été accusée, ben on ne peut pas l'empêcher de rentrer. Bon, au début, je me suis dit « OK, c'est ça ». Mais après ça, quand j'ai compris, comme toi, qu'il y a des règles très précises qui obligent, et la règle est la suivante, il y en a trois règles. La première règle, c'est « oblige le casino à faire une déclaration d'opération douteuse sur des transactions soupçonnées d'être liées au blanchiment d'argent ». Quand quelqu'un joue 2,5 millions de dollars dans la journée, là, ben, peut-être tu devrais remplir le petit formulaire. Ça, c'est première chose. Ensuite, ne pas avoir donné des détails précis sur la profession d'un client dans les déclarations de déboursement. Quand quelqu'un joue 2,5 millions de dollars dans la journée, tu lui demandes sa profession. Puis si sa profession, c'est professeur au secondaire, ben, il y a un problème. Puis troisièmement, on lui a reproché d'avoir évalué... de ne pas avoir évalué de certaines parties du programme en conformité et conservé des documents à l'appui. Donc, il y a une loi qui encadre ça. Il y a une loi qui te dit comment faire. les lois qui encadrent la mission de base d'une activité, il faut que ça soit respecté à la lettre. Le casino, il y a du monde pour faire ça d'habitude. Il doit avoir des conseillers juridiques qui remplissent ces papiers-là tous les jours.
Donc, Madame la Présidente.
Madame la Présidente. Fait que là, ils nous ont menti. Ils ont menti pour cacher leurs traces. Et pire que ça, c'est que le mensonge est allé jusqu'aux relations publiques. Plus tu mens, tu peux, comme tu as dit tantôt, ne pas parler de l'enquête. Il y a une enquête en cours, on n'en parle pas. Mais l'Auto-Québec a fait pire que ça. Lorsqu'ils ont été interrogés, ils ont dit qu'ils respectaient toutes les règles de la CANAF et qu'ils avaient indiqué qu'aucune lacune avait été notée lors d'un examen de conformité en 2016.
Mais c'est-tu quoi ce que ça cache, là? Je vais te le dire parce que les gens fait sursauter depuis le début. D'abord, par définition, là, un casino, si t'enlèves le crime organisé, si t'enlèves la mafia italienne puis le crime asiatique, si t'enlèves les motards, si t'enlèves les gens qui travaillent au noir, là, tu sais, de tous les domaines, là, t'es aussi bien de le fermer parce qu'il n'y aura pas grand monde. Ça sera pas bébé payant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, par définition, là, le crime organisé raffine ses méthodes. Il fut un temps où c'était facile d'aller chercher des jetons, puis d'y retourner, puis partir avec un chèque. Là, ils ont mis ça plus compliqué. Est-ce que tu penses, toi, que le casino a été placé de côté par la mafia italienne ou par les Asiatiques? Pas du tout. Ils changent de méthode. Ils vont utiliser des runs. Je ne donnerai pas les trucs, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un paradis. Ça demeure un paradis. Ça, c'est un aspect important. Et l'autre aspect, ça, c'est l'hypocrisie. Tu comprends? L'Auto-Québec, il faut qu'il livre des chiffres. Là. Le casino, c'est pas ce qu'il y a de plus payant, mais le casino est prêt, parce qu'il est en compétition avec d'autres casinos, à mettre des avantages sur la table. Tu sais, moi, j'ai vu des cas de gens, puis je l'ai dit à la madame la présidente, là. Tu sais, le Saint-James à Montréal, là, tu me garantis que tu vas jouer 500 000, m'a de payer ta chambre d'hôtel, m'a de payer des tournées en ville, m'a de payer les restaurants que tu veux, mais dépense. Tu m'arrases.
C'est partout. Tous les casinos font
ça. C'est ça. Si tu viens pas à Montréal, puis d'ailleurs, Montréal n'était pas très bien fiché parce qu'on trouvait que le rendement était moins bon qu'ailleurs.
Montréal n'est pas bien fiché chez les gens qui jouent sérieux.
Même Mme Bombardier trouvait que le rendement n'était pas bien fort.
Exactement.
Mais c'est sûr que si c'est un casino de l'État puis qu'on te donne un croissant quand tu as atteint 100 000 $ de gain.
On donne un 7-Up dans une tasse en plastique. Pas de farce. Non, pas de farce. J'en ai reçu un.
Non, mais les high rollers sont. C'est sûr que le crime organisé va toujours trouver une façon, dans l'économie légale, de naviguer des facilitateurs.
Mais d'abord, Paul, posons-nous une question, OK? Qu'on en veut encore? Parce que l'argent sale, on peut se dire, je vais regarder de côté, c'est normal que l'argent sale, ça appartienne aux gens qui font des opérations illégales. L'argent sale, c'est quoi, là? C'est du cristal meth, du crack, puis du fentanyl, qui ruine la vie des gens. J'ai regardé des photos de caméras de surveillance du casino qui ont été rendues publiques. Tu vois des gars avec des gros bijoux là, énormes là, dans le cou, là, puis ils marchent calmement comme s'ils s'en allaient prendre un coke au dépanneur du coin. Ils ont l'air d'être chez eux. Ces gens-là se sont enrichis. Le million que ça prête à jouer, là, se sont enrichis en détruisant des vies sur le bord de la rue ici. Là. Des gens qui sont au cristal meth puis ils quittent pour avoir leur prochaine dose. Moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête de pas faire le lien entre le coin de la rue et le casino.
Ouais, mais si c'est pas le casino, Luc, c'est peut-être autre chose. Mais j'ai une dernière petite information à vous transmettre qui montre que, tu sais, ça peut être des grosses affaires, mais quand la pourriture est pognée, il y a aussi plein de petites affaires. À l'automne, le casino a mis fin à un contrat qu'il avait depuis 20 ans avec un monsieur, un ancien entraîneur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, un certain monsieur Mario Bazinet, qui depuis 20 ans était le producteur des spectacles au casino. Et à l'automne, cette année, on lui a annoncé qu'il n'était plus. Pourquoi? Parce qu'on a découvert... cet automne, rappelons-le toujours, que monsieur avait un passé criminel, notamment pour fraude, trafic. En fait, il a un casier judiciaire et la loi ne permet pas à des gens qui ont des casiers judiciaires d'occuper des fonctions au sein de casinos ou d'être des associés proches de casinos. Et monsieur Bazinet, c'est là où c'est le plus cute, a dit, je comprends pas pourquoi on fait ça maintenant. Ça fait 20 ans qu'ils savent.
Ben oui. Écoute, bouge pas. Est-ce que je peux, en terminant, vous raconter une anecdote?
Ah oui.
Une compagnie de déménagement qui faisait affaire avec le casino. Et le casino exigeait, tu sais, mettons, il changeait les tapis, il fallait déplacer les machines, puis bon. Alors, il exigeait que les employés n'aient pas de casier judiciaire. Peux-tu dire qu'il y avait un problème de recrutement de main-d'œuvre? Non, mais blague ici. Bonne journée, on vous retrouve demain.
À demain.
Oui. Mais c'est une histoire vraie. La 20, monsieur, oui.